RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il revient d'un voyage en Égypte aux côtés du pape. Le père sartois Henri Fautrade participait il y a quelques jours à la conférence pour la paix au Caire, organisée par le grand imam d'Al-Azhar. Au micro d'Aubery Métro, il est venu nous livrer son témoignage sur cette expérience. De dialogue interreligieux, il en sera également question dans la pause spirituelle. À l'approche du 8 mai, Monseigneur Le Sceau s'apprête à partir en pèlerinage. Un pèlerinage dans les camps de concentration polonais et allemands, en compagnie de la communauté juive du Mans. L'initiative de la semaine, elle, nous emmènera en Mayenne. Le sud du département manque cruellement de professionnels de santé. Pour faciliter la reprise de son activité, une gynécologue de près de 70 ans a donc décidé de céder son activité pour 1 euro symbolique. Et tout cela pour l'intérêt public. C'est une aventure excitante dans laquelle s'embarque Lionel Régnier. Le skipper vendéen se prépare actuellement pour le Golden Globe Race, une course mythique en mer qui n'a eu lieu qu'une seule fois. C'était il y a 50 ans. Enfin, côté idée de sortie pour le week-end, on vous propose de partir à la découverte de la dernière création du bioparc de Douai-la-Fontaine. Le zoo implanté dans le Maine-et-Loire vient d'inaugurer un nouvel espace qui fait la part belle aux vautours et aux panthères des neiges. Voilà ce qui vous attend dans cette magazine présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo-Région, l'actu de la semaine.
Et l'actualité de la semaine nous emmène donc en Sarthe, ou plutôt au nord de l'Afrique. Aubery Métro, bonjour.
Bonjour Bastien.
Alors nous revenons avec vous sur la visite historique du pape François en Égypte. C'était il y a quelques jours.
Eh oui, le souverain pontife a prononcé un discours à l'université d'Al-Azhar du Caire. C'est le centre majeur de l'islam sunnite. Il est venu participer à la conférence pour la paix organisée par le grand imam d'Al-Azhar. Et parmi les participants, eh bien, il y avait un sartois, le père Henri Fautrade. Il était présent en tant que délégué épiscopal aux relations avec les musulmans pour le diocèse du Mans, mais aussi pour la conférence des évêques de France.
Nous avons été extrêmement touchés par la douceur des mots, mais aussi la douceur des gestes avec lesquels le pape François est intervenu, je dirais comme un agneau. Il me semblait que la pesanteur du monde reposait sur ses épaules, et en particulier ce défi extraordinaire de la paix pour l'avenir des peuples. Et donc, en fait, c'était un tremplin pour la paix dans le monde entier, en réalité. Il a insisté sur des points qu'il a déjà donné par ailleurs. C'est d'abord la profondeur de l'identité de chacun, de savoir creuser son identité. Le deuxième point, c'était le courage de l'altérité, donc d'aller à la rencontre de l'autre différent, sans vouloir de façon artificielle combler les fossés ou les distances entre les êtres et les traditions. Et enfin, point culminant, la sincérité dans les intentions, et de ne pas vouloir attraper l'autre ou par je ne sais quel prosélytisme, mais d'être surtout à l'écoute.
Des propos du père Henri Fautrade, comment Aubery s'est-il retrouvé dans cette conférence pour la paix ?
Eh bien, le père Henri s'est retrouvé là, un peu par hasard. Au départ, il s'était inscrit pour un simple voyage d'études.
Depuis quelques années maintenant, notre évêque m'avait sollicité pour permettre qu'il y ait de plus en plus de relations entre chrétiens et musulmans dans notre département. Et alors, je fais partie maintenant, depuis 8 ans, du service national des relations avec les musulmans qui était fondé par les évêques de France. Et donc, un voyage d'études a été proposé par le SNRM. Et dès janvier, on s'est inscrit les uns et les autres. Et nous étions 24. Et nous sommes donc différents délégués de différentes régions de France à avoir répondu à cet appel. Et puis, en cours de route, il se trouve que ce voyage d'études s'est transformé en un voyage complètement historique.
Et en plus d'assister à cette conférence pour la paix, le père Henri a aussi pu participer à plusieurs cours de théologie sur l'islam.
C'était 10 jours de cours intensifs sur la question du dialogue et de la rencontre interpersonnelle à travers des traditions religieuses différentes. Et là, nous avons suivi des cours, tenez-vous bien, sur la réalité de la charia. La charia comme principe juridique. Et puis ensuite, on a eu un cours sur la miséricorde de Dieu du point de vue coranique. C'était assez intéressant d'envisager à la fois des points de convergence, puis aussi des différences notoires sur la conception de la miséricorde du point de vue biblique ou du point de vue coranique.
Au final, Aubery, qu'est-ce que le père Henri retient de son voyage ?
Eh bien, pour lui, ça a été un véritable enrichissement, car en plus de ses cours, avec la délégation de la conférence des évêques de la SNRM, il a pu rencontrer plusieurs hauts responsables religieux.
La rencontre interreligieuse a fortifié la rencontre œcuménique entre traditions chrétiennes, ce qui nous pousse à un dialogue non pas seulement interreligieux ou œcuménique, mais aussi intra-religieux. Et le directeur du SNRM, le père Vincent Feroldi du diocèse de Lyon, a accompli de ce point de vue un travail remarquable et qui était vraiment providentiel avec toutes ces rencontres, afin que nous puissions continuer, sans être découragés par l'actualité, de servir les relations entre les personnes de différentes traditions, à la fois à l'intérieur du christianisme et aussi dans ce que Dieu révèle de vrai et de beau dans les autres traditions religieuses de ce monde.
Et le diocèse du Mans multiplie les signes d'amitié vers les autres religions, car comme nous l'entendrons tout à l'heure, Monseigneur Le Sceau part en pèlerinage avec la communauté juive du Mans dans les camps de concentration.
Et on en reparle effectivement dans une minute au Berry, ne bougez pas. Avant cela, l'actualité de la semaine en Pays de la Loire, en bref, c'est également l'usine Renault du Mans qui embauche une centaine de salariés en CDI, doivent être recrutés d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite cette semaine par le constructeur automobile qui vient de récupérer un nouveau marché. La marque japonaise Nissan lui a confié la production des châssis de la future Nissan Micra. Ces commandes augmentent l'activité du site d'environ 8%. Mauvaise nouvelle en revanche pour les viticulteurs de l'Anjou. Le département de Maine-et-Loire a été récemment frappé par plusieurs épisodes de gel. Certaines parcelles ont été durement touchées, particulièrement pour les appellations Saumur et Savenière. Plusieurs exploitants ont perdu entre 80 et 100% de leur récolte. La Fédération viticole Anjou-Saumur vient de lancer une enquête pour connaître précisément le bilan du gel sur le territoire.
L'Hebdo-Région. Pause spirituelle.
Et dans cette pause spi, il est encore question de dialogue interreligieux en Sarthe, mais cette fois-ci avec la communauté juive au Berry Métro.
Eh oui, c'est un geste fort qu'est en train de réaliser Monseigneur Le Sceau. L'évêque du Mans est parti ce vendredi en pèlerinage en Pologne et en Allemagne. Il est accompagné d'une dizaine de personnes dont les représentants de la communauté juive du Mans. Ce sont pour la plupart des petits-enfants de déportés dont les parents et les grands-parents se sont installés en Sarthe. Pendant 4 jours, ils vont parcourir les lieux symboliques de la Shoah. Les détails avec le vicaire général, le père Paul-Antoine Drouin, qui fait lui aussi partie de la délégation.
Donc on va partir sur 4 journées et on va se rendre dans le ghetto de Cracovie. On va être guidé par une femme, Madame Guerrier, qui connaît très bien ces lieux et qui a déjà fait ses démarches et qui va nous guider là-bas. On va aller aussi dans plusieurs camps, Birkenau, Auschwitz, donc vivre tout ça en prenant notre temps. Il y a des moments aussi le soir où on pourra échanger sur ce que l'on a vécu dans la journée, parce que je pense qu'on parlera pas beaucoup sur les lieux. Moi, j'imagine vraiment la présence forte du silence. Et la dernière journée, on ira ensemble à Wadowice, c'est-à-dire la ville natale de Saint Jean-Paul II, puisque c'est lui qui vraiment a remis, après le Concile Vatican II, l'importance qu'il y avait à retrouver les liens entre frères juifs et frères chrétiens. Nous sommes judéo-chrétiens, c'est-à-dire nous sommes de la même famille les uns les autres.
Et comment est née l'idée de ce pèlerinage commun entre juifs et catholiques?
En fait, Bastien, les liens forts existent déjà entre les deux communautés. Monseigneur Le Sceau reçoit les représentants juifs à l'évêché peu avant Noël et il est accueilli pour pêcher à la Pâque juive. Alors l'idée de cette visite est venue au cours de discussions. Pour l'évêque du Mans, ce temps passé dans les camps de concentration est un véritable message de paix et de tolérance.
C'est effectivement hautement symbolique. En fait, c'était une discussion pendant plusieurs mois avec les membres de la communauté, parce que ceux qui sont présents au Mans, pour la plupart, ce sont des petits-enfants de déportés, des personnes qui ont été donc victimes des camps de concentration et qui n'avaient jamais souhaité se rendre sur place, parce que devant l'horreur de ce qui s'est passé là-bas. Et une très belle expression que j'ai retenue de leur part, c'est de dire « puisque c'est avec vous, c'est-à-dire avec l'évêque, qu'on pourrait y aller, alors oui, là on est d'accord, si on y va ensemble ». Il me souvient qu'à un moment donné, on l'a dit « vous savez, nous, ce qu'on recherche en allant dans les camps là-bas, c'est simplement se taire avec vous, être à vos côtés dans le silence, mais porter ce drame de notre passé et en faire mémoire ensemble ».
Est-ce que les jeunes du diocèse du Mans, Berry, s'étaient déjà arrêtés dans ces camps de concentration ?
Oui, c'était l'été dernier, au moment de leur pèlerinage vers les JMJ de Cracovie. Et ce voyage, eh bien, on le devait déjà à l'amitié judéo-chrétienne sartoise.
Il y avait eu aussi une soirée au Pâté Cinéma qui avait été organisée autour du film La Rafle, puisque le jeune enfant, un personnage principal de ce film, habite encore aujourd'hui au Mans. Et donc, il y avait pu avoir ce dialogue entre les jeunes et M. Westman, qui avait été aussi un moment très bouleversant et qui avait touché ces jeunes.
M. Westman va faire partie de la délégation qui part avec vous ?
Alors, pas cette fois-ci. Lui-même est déjà allé dans les camps, mais il dit, c'est tellement douloureux pour moi qu'il nous a dit ceci, il nous a dit « je n'irai que si mes petits-enfants me demandent de faire cet effort quoi, pour leur transmettre les choses ». Mais il encourage les 6 membres de la communauté juive qui seront avec nous, nous serons 4 pour la communauté catholique. Il nous encourage vraiment à vivre ce moment de mémoire ensemble.
Et Monseigneur Le Sceau appelle les chrétiens des Pays de Loire à prier pour cette délégation afin qu'elle serve la fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance.
Et merci Aubery pour ces messages de tolérance et d'ouverture. Cette fois c'est bon, je vous libère. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Bastien.
L'Hebdo-Région, initiative.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous en parlons dans l'Hebdo-Région. La Mayenne est le 3e désert médical de France et la situation ne s'arrange pas. Des milliers de patients n'ont plus de médecins traitants. Les spécialistes, eux, peinent à trouver des candidats à la reprise de leur activité. C'est le cas du docteur Bernadette Perrault, gynécologue depuis 32 ans à Château-Gontier. Elle cherche depuis 2015 un successeur. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, elle n'a pas hésité à faire le buzz. Il y a quelques semaines, elle a mis une annonce sur le Bon Coin. Son cabinet et ses 15 000 patientes pour 1 euro symbolique. Samuel Pécaud, vous l'avez rencontré. Est-ce que l'originalité a payé ?
Alors oui et non, j'ai envie de dire. Oui, ça a marché parce que ça a permis d'alerter largement sur l'ampleur du problème dans le département. La plupart des télévisions nationales sont venues faire des reportages suite à la publication de l'annonce. Donc oui, en quelque sorte, la sonnette d'alarme a été tirée. Mais c'est pas pour autant que ça a apporté des solutions dans le cas du docteur Perrault. Alors que la France entière sait désormais qu'il y a un cabinet de gynécologie parfaitement rentable à reprendre à Château-Gontier pour 1 euro seulement. Il n'y a quasiment pas eu de candidat à l'installation en comme si le sort de ces patientes sans gynéco laissait totalement indifférents les jeunes médecins.
Oui, j'ai vraiment eu un relais médiatique national très important et il y a peu de réponses, alors que c'est quand même des conditions extraordinaires d'installation, puisque pour s'installer, il faut investir entre 80 000 et 100 000 euros. Là, il n'y a rien. Alors, il y a eu quelques résultats, beaucoup de farceurs, beaucoup de personnes n'ayant même pas le diplôme, me demandant de les former en compagnonnage. J'ai eu une ou deux annonces sérieuses que j'ai contactées, mais j'attends que ça soit concrétisé. Et puis, j'attends qu'ils viennent visiter cette magnifique région au mois de mai avec les ponts répétés.
Vous l'entendez, hein, le docteur Perrault garde espoir, une maison médicale va ouvrir à Château-Gontier. Ça aidera, on l'espère, à attirer un gynécologue dans la ville. En tout cas, elle ne baissera pas les bras. Ce dernier combat professionnel, elle le mène dans l'intérêt général pour ses 15 000 patientes, principalement originaires du Sud Mayenne.
Alors, ce n'est pas que le Sud Mayenne, puisqu'il n'y a plus de gynéco libéral à Sablé, et il n'y en a jamais eu à Segré. Donc vous voyez, c'est quand même une énorme population qui se retrouve sans gynécologue libéral. Il y a vraiment un risque de santé publique. De très nombreuses patientes m'ont dit, à partir de maintenant, puisque vous partez, on ne se fera plus suivre. Donc c'est quand même important parce qu'une palpation des seins, un examen gynécologique peut permettre de dépister une tumeur débutante. Et après, lorsqu'il y a déjà des signes importants, le pronostic est différent.
Alors si les quelques contacts en cours n'aboutissent pas dans les prochaines semaines, elle sollicitera des gynécologues étrangers, probablement en Espagne. Mais quoi qu'il arrive, elle cessera son activité en novembre prochain.
Oui, j'arrête parce que j'arrive à 70 ans, je suis fatiguée, je commence tôt, je termine tard. Donc j'arrêterai, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année. Et donc il ne restera plus que 2 gynécologues libérales en Mayenne, une à Mayenne et une à Laval. Alors j'espérais, étant à Château-Gontier, près d'Angers, que je n'aurais pas ce problème, puisqu'on peut très bien habiter le nord d'Angers et venir travailler à Château-Gontier. Mais hélas, ça n'a pas été le cas.
À noter que c'est un cercle vicieux, la désertification médicale. L'un des gynécologues qui s'intéresse à la reprise du cabinet hésite encore. Il s'inquiète notamment du manque de médecins généralistes dans le département, ayant lui-même des enfants en bas âge. Vous le comprenez, hein, au-delà de l'enjeu de santé publique, c'est aussi un vrai enjeu pour l'attractivité de notre territoire. Espérons que la LGV, la ligne à grande vitesse qui placera à partir de cet été Laval à seulement 1h10 de Paris, aidera à attirer de jeunes médecins en Mayenne.
On l'espère également, Samuel, pour l'attractivité du territoire et surtout pour les patients mayennais actuellement sans solution. Et puis tiens, ça peut peut-être convaincre les futurs spécialistes de s'implanter sur votre territoire, Samuel. La sous-préfecture du Sud Mayenne fait la une du guide touristique Michelin sur les 100 plus beaux détours de France. L'ouvrage édité à 212 000 exemplaires met en avant de jolies villes qui ne sont pas situées sur un grand axe de circulation mais qui possèdent un patrimoine à découvrir. On poursuit ce magazine sur une note un peu plus gaie, c'est la rencontre de la semaine.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et bonjour Fanny Brevet.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors 50 ans après sa première édition, la Golden Globe Race s'élancera pour un second épisode, un départ qui sera donné le 30 juin 2018 depuis le port de Plymouth en Angleterre, avec pas moins de 30 skippers sur la ligne de départ. Parmi eux, le Vendéen Lionel Régnier que vous avez pu rencontrer, Fanny.
En effet Bastien, le skipper installé au Sable d'Olonne depuis plus de 30 ans a passé un cap dans la préparation de cette course autour du monde en faisant baptiser samedi dernier son bateau. C'est à son bord que le navigateur souhaite prendre le départ et nous explique en quoi cette course est légendaire.
En quoi elle est légendaire? Parce qu'il y en a eu qu'une. Il y en a eu qu'une pour le moment en 1968. Et qu'elle a fait couler à l'époque beaucoup d'encre, puisque Moitessier en a écrit la longue route, et qu'un seul à l'époque est arrivé au bout du tour. Nous allons repartir du coup tous dans les mêmes conditions de navigation qu'à cette époque. En 68, c'est là qu'est le défi, hein, parce que si on partait autrement, ça s'appellerait le Vendée Globe. Donc ça reste le Golden Globe, on va partir dans les mêmes conditions au niveau de la navigation, pas au niveau de la sécurité et pas au niveau de la communication, puisque vous aurez les Tyriens, vous aurez les moyens de 2018 pour pouvoir nous suivre, mais nous on n'aura pas les moyens de maintenant pour pouvoir vous envoyer des photos tous les jours. Donc et pour communiquer, on n'aura que la radio, comme à l'époque, la radio HF.
Alors justement, pour qu'on se rende bien compte, en termes de navigation, en quoi ce sera différent, par exemple, du Vendée Globe?
Parce que nous, on y va avec des bateaux de série comme en 68, donc des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, qui vont trois fois moins vite. Donc on va déjà mettre trois fois plus de temps. En plus, on n'aura pas l'électronique de maintenant, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'ordinateur, pas de GPS, pas de téléphone portable, pas de pilote électrique, pas d'instrument de navigation électronique. Le parcours, c'est le même que le Vendée Globe, hein, avec la port de départ et d'arrivée qui change, puisque nous partirons de Plymouth le 30 juin 2018 pour revenir à Plymouth 8 à 9 mois après.
Une course à l'ancienne donc pour cette Golden Globe Race qui durera plus longtemps que son petit frère le Vendée Globe. Mais si les conditions seront volontairement plus spartiates, les bateaux n'auront pas pour autant 50 ans.
C'est un bateau qui date, lui, de sa construction de 1990. Il a 27 ans, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il a été dessiné avant les années 80. C'est-à-dire que c'est un plan de la même époque qu'en 68.
Et donc vous l'avez adapté, ce bateau? Vous avez modifié certaines choses?
On n'a pas le droit de les modifier. Non. Il faut qu'il reste en bateau de série. Donc je ne l'ai pas modifié, mais je l'ai, restauré, changé le mât, par exemple. Parce que le mât, il avait 27 ans, donc pas question de partir avec un mât. On ne sait pas ce qu'il a fait et dans quel état il est vraiment. Donc c'est un mât neuf et des câbles neufs qui le tiennent, mais dans la même matière qu'en 68, c'est-à-dire en aluminium. Changer la castillage, les winches qui nous permettent de tirer sur nos boots sont neufs aussi, pour être sûr qu'ils fassent le tour, les autres ayant aussi 27 ans. Et puis l'intérieur, non, on l'a juste nettoyé, vérifié, contrôlé, refait les couchats qu'on n'a pas le droit d'enlever, et rajouter un petit peu de sécurité en faisant une cloison étanche qui n'était pas de série à l'époque et qui est obligatoire maintenant pour aller faire des longs parcours.
Pour Lionel Régnier, avoir baptisé son bateau est un moment important dans les étapes de la préparation.
Ça veut dire déjà que le bateau existe et qu'il navigue, donc il est quasiment prêt. Et 14 mois avant, c'est pas trop mal. Même s'il en reste encore à affiner, il est prêt, puisque je vais prendre le départ d'une course dans 4 semaines maintenant. Pour aller faire une petite traversée de l'Atlantique en galop d'essai. Ça veut dire aussi que le projet avance, qu'il y a du monde autour. La preuve, hein, si on regarde les photos de samedi, nous étions je ne sais pas combien sur le ponton et 130 à la fiesta qui a suivi derrière. Donc le bateau porte bien son nom. Je vais peut-être aller naviguer tout seul, mais je ne suis vraiment pas tout seul, quoi.
Le skipper Lionel Régnier qui sera donc sur la ligne de départ de la deuxième édition de la Golden Globe Race le 30 juin 2018 aux côtés de 29 autres navigateurs.
Et les skippers devraient sans aucun doute battre le record de cette course détenue par le seul marin à l'avoir fini. C'est Robin Knox Johnston qui était donc un record de 313 jours à l'époque. Et voilà pour ces dernières informations. Merci Fanny et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, si on sortait.
C'est l'attraction de la semaine. Jeudi, après 9 mois de travaux, le bioparc de Douai-la-Fontaine a inauguré officiellement sa toute dernière création. Et cette fois, l'équipe du parc animalier nous propose de prendre un peu de hauteur, Marion Bastit.
Le bioparc, c'est le site touristique le plus visité dans le Maine-et-Loire, avec environ 230 000 entrées par an. Et ce qui plaît particulièrement au public, c'est le renouvellement du lieu. Après la Grande Volière en 2009 ou le Sanctuaire des Okapis en 2013, le directeur François Gay a pour cette saison 2017 imaginé et réalisé avec son équipe les fantômes de l'Himalaya. Explication.
Pourquoi les fantômes ? Parce qu'il regroupera des vautours et des panthères des neiges qui sont déjà présents sur le bioparc et de nouvelles espèces comme des marcors, un grand bouquetin originaire de l'Himalaya, et des marmottes qui vont vivre aux côtés de ces vautours et bouquetins. Et ces animaux ont, point commun, grande capacité de camouflage dans leur environnement. Voilà pourquoi nous appelons cet espace les fantômes de l'Himalaya. Alors ils vont vivre à proximité, certains seront dans le même enclos, mais évidemment les panthères qui sont des prédateurs ne seront pas en contact direct avec les autres espèces. L'idée est d'offrir un paysage escarpé, ce qui permettra aux panthères de grimper dans ces falaises minérales. Et puis pour les vautours, on leur offre un espace de 4000 m² qui va prendre la forme d'un amphithéâtre. Et cet amphithéâtre va être creusé dans la roche.
Le spectacle promet, mais l'enjeu est double. Divertir le public, bien sûr, mais également l'éduquer. Et cela passe notamment par de la pédagogie sur l'importance des vautours dans l'environnement. Une espèce qui ne bénéficie pas toujours d'une très bonne image auprès des spectateurs. Pierre Gay, co-directeur du site.
C'est très étonnant parce que c'est une image qu'il n'avait pas il y a très longtemps. Les vautours sont des nécrophages, ils mangent des cadavres d'animaux, donc ils débarrassent la nature de germes potentiels. Et il se trouve que dans beaucoup de cultures anciennes, le vautour était plutôt le lien entre les humains et les cieux, puisque c'est lui qui était censé emmener les âmes des hommes vers le ciel. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui en Amérique du Sud, où les condors sont révérés pour ça, il y a encore des populations qui ont ces croyances. C'est ce qui se passe aussi en Inde. Chez nous, ça a été le cas, mais ça a disparu parce que voilà, on a 2000 ans de christianisme. Enfin, c'est la vie de nos sociétés.
Quasiment disparu en France dans les années 30, les vautours font aujourd'hui l'objet de nombreux projets de réintroduction dans la nature. Une problématique dont s'est emparé le bioparc il y a déjà plusieurs décennies.
Alors, il se trouve qu'au tout début de la réintroduction des vautours fauves, l'espèce la plus commune en France, on a été contacté par des ornithologues de la Ligue de protection des oiseaux. Encore une fois, ça s'appelait le Fonds d'intervention pour les rapaces, qui nous ont dit, vous avez un beau groupe de vautours à Douai-la-Fontaine. Si quelquefois vous avez des jeunes, est-ce que vous seriez intéressé pour les relâcher dans la nature ? Il se trouve qu'on avait ce groupe de vautours, qu'on espérait avoir assez vite des reproductions. Donc dès le début des années 80, on a accepté de participer à la fin des années 70. Et dès le début des années 80, quand les premiers poussins vautours fauves sont nés ici, ils ont été renvoyés d'abord dans les Causses des Cévennes, et puis ensuite dans les Alpes. Et puis depuis 10 ans, nous les relâchons en Bulgarie. Et ce qui est exceptionnel, c'est que le premier vautour né dans un zoo relâché en Bulgarie venait de Douai-la-Fontaine. Et que l'an dernier, ce même vautour a eu un bébé, et donc le premier poussin né dans la nature en Bulgarie est né d'un oiseau né à Douai-la-Fontaine.
Mais le bioparc ne se contente pas d'aider les espèces en danger. Avant tout, il s'engage auprès d'associations dans des projets qui accompagnent les populations dans leur développement. Objectif, assurer une meilleure cohabitation entre l'homme et l'animal. C'est le cas en Mongolie, où les panthères des neiges, qui s'approchent un peu trop près des exploitations, sont devenues la cible des paysans qui craignent pour leur bétail. Peggy Lavergne, responsable de la communication du bioparc.
Tout le travail de la fondation, et c'est vraiment cette partie-là que nous soutenons, c'est d'aider les éleveurs à trouver des solutions pour protéger leurs troupeaux, pour les assurer, pour les vacciner, et puis également pour développer d'autres activités qui vont générer des revenus supplémentaires et leur permettre de mieux vivre. Jusqu'à présent, les éleveurs vendaient la laine brute de leurs chèvres, de leurs moutons, ou de leurs chameaux ou des yaks. Et là, l'idée, c'est de les aider à développer l'artisanat et donc de vendre à des prix plus élevés des produits qui vont être affinés directement sur place. Oui. Ça passe par de la formation, oui, par des ateliers, par du don de matériel aussi également. Et puis la fondation aide aussi jusqu'à la commercialisation des produits, puisque les produits qui sont faits sur place peuvent être vendus jusque dans nos parcs zoologiques.
Au total, le bioparc est actuellement engagé dans 27 projets nature à travers le monde.
Merci Marion. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tarifs et les horaires d'ouverture du bioparc de Douai-la-Fontaine pour découvrir les fantômes de l'Himalaya, rendez-vous sur le site internet bioparc-zoo. zoo.fr. On reste dans l'univers animalier. Le zoo de la Flèche vient de rafler 8 récompenses aux Zoo Note Awards 2017. Le parc sartois remporte les prix de la plus belle naissance de l'année avec les deux petits pandas roux, celui du plus bel hôtel avec l'Arctic Lodge face aux ours polaires, et il est le deuxième zoo préféré des Français derrière celui de Sainte-Croix en Moselle. Voilà, c'est la fin de cet Hebdo Région, votre magazine d'actualité qui vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou en partenariat avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci encore de votre fidélité.